C'est-à-dire la Chambre de commerce de la MRC qui dit on laissera pas tomber. Il y a de la cohérence à venir jusqu'à maintenant. C'est un défi que de faire le temps là-dessus, tu sais. Puis c'est même un peu, tu sais, de dire, oh, je travaille avec des citoyens pour un projet à la pointe. Je regrette. On peut pas travailler un projet à la pointe sans qu'il y ait un assentiment du conseil. Il y a des intervenants là-dedans. Il y a des instances qui possèdent des terrains là-dedans. Le ministère des Transports. C'est pas un groupe de citoyens qui va mettre en place un projet. On peut avoir des idées. Mais si t'as pas l'assentiment, puis l'appui, puis le support de la ville là-dedans, t'as comme un très sérieux problème. Mais on regarde en avant.
Ouais. Jean-Christian Pelletier.
Ça, c'est la nouvelle expression, on regarde en avant.
Ouais, avant, c'était retourner les pierres.
J'avais l'impression qu'on était dans un épisode des pierres à feu. Là.
Ouais.
On retournait des pierres.
On regarde en avant, ouais. C'est la nouvelle.
On se permet de badiner un peu quand même.
Ben oui, il faut
c'est
bien.
C'est permis.
Christian Pelletier, tu accueilles ça de quelle façon?
Ben honnêtement, j'ai été surpris. Je connais Christian Pelletier, je te dirais presque autant que le maire actuel. J'ai eu une idée ce matin en écoutant Mario Bassé, qui avait des propos très corrects, très respectueux à l'égard de Christian Pelletier. J'ai entendu Daniel aussi, puis l'idée m'est venue, c'est que je me dis, écoute, on a deux bonnes têtes, deux gars intéressants. Moi, je rêve du jour d'avoir ces deux gars-là à la même table du conseil. Peut-être que Christian Pelletier, qui n'a pas une très grande expérience politique, on s'entend, pourrait décider. Si je choisis Rivière-du-Loup, d'abord, ça me paraît, ça m'a questionné beaucoup, là, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Tu sais, je veux me présenter à la mairie, mais je sais pas dans quelle municipalité. Habituellement, c'est un choix qui est clair. Mais disons, il y a ceux qui sont partis, ceux qui partiront au conseil, puis il y a ceux qui devraient partir. Alors, moi, je dis à Christian Pelletier, ce serait drôlement intéressant de te choisir un district. Et présente-toi à Rivière-du-Loup, il y a des choses à faire. Et ça, je pense que Pelletier-Bassé, ça pourrait être complémentaire.
Ouais.
Tu sais, ça
prend l'expérience.
Prendre l'expérience.
En 4 ans, ben faire un peu comme Mario Bassé a fait. Prendre l'expérience comme conseiller, puis après ça, viser la mairie.
Je pense pas que Christian Pelletier a besoin du salaire du maire de Rivière-du-Loup pour vivre. En même temps, tu sais, si l'homme veut s'impliquer, il le fait au niveau des Jeux du Québec. Il le fait chez Desjardins. Tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours occupé des fonctions sociales, si tu me permets l'expression. Puis, je le répète, c'est une bonne tête. Mais si on avait les deux à la même table du conseil, je pense qu'on viendrait d'enrichir la ville de Rivière-du-Loup d'expertise en affaires, de connaissances de la communauté. Et je le vois comme ça. Mais d'un autre côté, s'il veut aller à Saint-Antonin, ben libre à lui. La mairie de Saint-Antonin est à portée, là. Je veux dire, je sais pas si le maire actuel revient ou s'il ne revient pas.
On sait pas encore. Mais
Christian Pelletier a aussi des racines à Saint-Antonin. Sa famille était... Enfin, je connais pas la situation familiale, mais camping chez Jean, tout ça.
Il y a des racines.
Puis Rototech. Puis c'est un homme connu. Et je ne connais pas d'ennemis à Christian Pelletier.
J'ai envie de te poser la question. Son idée d'un grand Rivière-du-Loup, tu en penses
si
quoi?
Si c'était si simple, ce serait déjà fait.
Ben, c'est un peu la
réflexion
que j'ai
eue. Honnêtement, regarde, celui qui te parle le matin, on a essayé Kakuna, à 40, on est passé à 40 votes d'y arriver, mais c'est pas arrivé. Puis, je vis dans le monde municipal. Là. Peu importe la municipalité dans laquelle j'ai servi au cours des dernières années, moi je suis un dépanneur comme tu le sais, là, je vais assumer des directions générales, et tous les conseils sans exception pour lesquels j'ai travaillé parlent-leur pas de fusion là.
Ils en veulent pas.
Dans le discours, tant que ça les engage pas, tu sais, on fait une tout le monde est d'accord avec une étude, on va savoir. Puis là le deuxième élément qui s'ajoute à la réflexion, ben on n'a peut-être pas besoin de fusionner, on va faire des ententes de service. Puis là quand ça avance encore un petit peu plus là, ah ben là non, là on se trouve toutes sortes de raisons, on va perdre le programme de la tech, on va perdre ici, on va perdre ça. Il n'y en a pas d'intention. Fait que ouais. Tu as beau dire ça, puis si tu dis ça en plus à partir de Rivière-du-Loup, tout le monde autour se braque. Tu sais, je le sais, j'ai essayé. Tu sais, Rimouski ont réussi. Tant mieux pour eux.
Pratiquement un miracle quand tu regardes, quand tu prends un pas de recul puis tu regardes ailleurs, c'est pratiquement un miracle.
Ben, ouais. Puis honnêtement, je veux dire, moi, à l'époque, on s'est peut-être cru, nous, le conseil, plus brillant que les autres, là. C'est que, moi, j'avais dit, je me souviens d'une déclaration que j'avais faite auprès de mes élus. J'ai dit, écoutez, les fusions forcées, ça reste des fusions forcées.
Ouais.
J'avais dit, on va prendre le temps, puis on va les convaincre, puis on va s'asseoir, puis on va discuter. J'ai été naïf de croire ça jusqu'au jour où j'ai imposé que, bon, parfait, nous aussi, on va se prévaloir de la loi. Ben c'était un peu trop tard parce que le gouvernement a changé et on a échappé le ballon. C'est le seul moment dans ma vie où où je me suis dit, bon, ben les libéraux arrivent. Dans ce cas-là, ça faisait pas mon affaire. J'étais maire à Rivière-du-Loup en 2003.
C'est vrai.
Ça a duré 15 secondes dans ma tête. mais c'est ça, tu sais. Alors, si c'était facile, ce serait fait. Et c'est pas parce qu'on le dit que ça va se faire. C'est noble. C'est l'avenir, mais en même temps, tant qu'on va penser comme on pense, ça ne se fera pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, s'il y a un dossier sur lequel je ne perdrai pas mon temps, c'est plus tu vas vouloir le faire, moins ça va se réaliser.
Ouais.
À un moment donné, dégage-toi un peu de ça, puis on verra. L'avenir, c'est long,
naturellement.
L'avenir, c'est long, longtemps. Ouais. Et, je pense que c'est peut-être une prochaine génération d'élus municipaux qui vont être un peu plus ouverts.
Ouais.
Peut-être même la prochaine.
Ouais.
Mais bon, la prochaine, on n'a pas à patienter trop longtemps. Là, c'est dans quelques mois.
Je vais te l'emprunter, celle-là. L'avenir, c'est long, longtemps.
Ah, l'avenir, c'est long, longtemps, ouais. Et c'est plutôt incertain.
Merci, Jean.
Bonne semaine.
On se reparle la semaine prochaine. On s'arrête dans quelques instants. C'est le commentaire de Dimitri Soudas. À venir également la chronique économique.
Puis, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine?
Une maison.
Jusqu'au 14 mai chez BMR. Les peintures Sico sélectionnées de 3,78 litres sont jusqu'à 50 % de rabais. BMR, pour les vrais. Des conditions s'appliquent.
Aujourd'hui, c'est le grand McDo. Tout achat chez McDo vient en aide aux enfants malades et à leurs familles.
Fait que si je commande un Big Mac, j'aide les enfants.
Oui, un Big Mac, c'est bon.
Un chausson?
C'est bon.
Un McFlurry?
Bon aussi.
Une petite frite?
Bon.
Quart de livre?
Bon.
McWrap?
Bon.
McPoulet?
Non.
Oh.
Ben non, un McPoulet, c'est bon.
Ah!
Aujourd'hui, c'est bon de donner lors du Grand McDon. Joignez-vous à nous.
C'est bon!
Une partie de la vente de nourriture et de boissons permettra de soutenir les filiales de l'OMRM et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants du Canada.
Taxi Beaulieu, pour arriver à votre destination en toute sécurité. Taxi Beaulieu possède 11 voitures régulières et un véhicule spécialisé pour la grande route. Vous pouvez payer avec paiement direct dans toutes les voitures Taxi Beaulieu, par carte Interact, Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay ou Apple Pay. Pour vos déplacements, appelez Taxi Beaulieu 862-3111. 862-3111. Taxi Beaulieu, fier partenaire D3L.
Monsieur Soudas, bonjour.
Monsieur Lagacé, bonjour.
Content de te parler.
Bonjour.
Bon, écoute, on va parler du projet de loi de Christian Dubé. Le gouvernement a sorti ça de son chapeau hier matin. Ça n'avait pas été télégraphié, c'est-à-dire que en pleine négociation avec les fédérations de médecins où on parle justement de performance, de lier la rémunération à performance, Monsieur Dubé qui dépose un projet de loi là-dessus.
Tout à fait. Le ministre Dubé a deux objectifs. Le premier, il veut une prise en charge de 100% des Québécois. Et deux, quand même ambitieux, que 99% des chirurgies soient réalisées dans un délai de 12 mois. On connaît bien que présentement, Patrick, il y a à peu près 15% des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, qui ne sont pas pris en charge. Et bien sûr, sur la question des chirurgies, ça peut aller à 2-3 ans même parfois. Il y a des gens qui m'ont posé la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi? Ben, le modèle de rémunération pour les médecins, Patrick, n'a pas changé depuis 1970. C'est quand même quelque chose.
Dimitri, la communication est pas très bonne. On va t'appeler sur ton téléphone immédiatement. Je vais poursuivre un peu là sur ce que Dimitri disait. Ce projet de loi-là, ça n'avait pas été télégraphié. Souvent, les projets de loi du gouvernement le sont. Hier, pendant l'émission, là, vers la fin de l'émission, on a appris que Christian Dubé déposait ce projet de loi-là et on veut lier la rémunération à des objectifs de performance. Et là où ça, il y a peut-être un petit anicroche, là, c'est qu'il y a déjà des négociations présentement avec les fédérations de médecins et c'est déjà à la table, et c'est déjà un gros problème. D'arriver en pleine négo et de dire, on va vous imposer un projet de loi, disons que ça risque de hurler chez les médecins. Donc, l'objectif, Dimitri, qui est de retour, il est clair. Le gouvernement veut une prise en charge à 100% des Québécois dès que possible.
Oui, une prise en charge de 100% des Québécois et aussi que 99% des chirurgies soient réalisées dans un délai de 12 mois. Donc, les gens qui sont en train de conduire ce matin, probablement se roulent les yeux. Pourquoi? Ben, on vit ce drame à chaque fois qu'il y a des négociations. À chaque fois, les gouvernements, ils trouvent la solution facile. On va mettre plus d'argent, les services ne vont pas s'améliorer, mais les gens vont pas chialer. Donc, la raison que ça prend une loi, c'est parce que la rémunération des médecins n'a pas changé depuis... Le modèle de rémunération n'a pas changé depuis les années 70. Donc, regardons quelques chiffres. OK?
Oui.
Pour travailler 3 jours/semaine, un médecin de famille, le salaire moyen, 420 000 $ par année. Pour travailler 3 jours/semaine, un médecin spécialiste, en moyenne, 600 000 $ par année. Les enveloppes annuelles. Donc, l'enveloppe annuelle pour les omnipraticiens au Québec, c'est 3,2 milliards. L'enveloppe annuelle pour les spécialistes, c'est 5 milliards de dollars.
Quand tu parles de moyenne, Dimitri, là, tu nous dis que c'est une moyenne de 3 jours. Je sais qu'il y a des médecins qui travaillent 3 jours, il y en a qui travaillent 5, il y en a qui travaillent 4. Mais pour avoir parlé à des présidents de syndicats de médecins, là, ça va faire débat. Sauf que ce qui est clair, c'est que plus les médecins sont payés, plus ils sont payés cher, puis ils devraient être bien payés, on se comprend. Il y a comme un incitatif pour certains médecins à moins travailler puis faire quand même un très bon salaire.
Je pense que 420 000 $ par année, c'est plus qu'un très bon salaire pour un omnipraticien. 600 000 $ par année, comparé à tout le monde qui travaille fort, 5 jours semaine, parfois 6 jours semaine, parfois même 7 jours semaine, et très souvent plus qu'un emploi. Donc, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que le client demande trop en disant que 100%... Présentement, il y a 1,5 million de Québécois qui ne sont pas pris en charge. 85% des Québécois sont pris en charge. Mais l'autre 1,5 million, pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris en charge? Tu sais, selon le Collège des médecins, Patrick, 30% des Québécois disent avoir tenté de consulter un médecin sans succès.
Oui. Donc,
ces médecins sont payés par les contribuables, par les gens qui, ce matin, conduisent pour aller travailler et ne peuvent pas dire, moi, je vais prendre lundi puis vendredi congé pour me faire un bon long week-end à chaque semaine. Ces gens-là payent leurs impôts. Donc, les docteurs travaillent pour tous ces gens-là qui travaillent 5, 6, 7 jours semaine.
Qu'est-ce que tu penses du fait qu'en pleine négo, où on parle de ces enjeux-là avec les médecins, le gouvernement arrive avec un projet de loi?
Ce n'est pas un projet de loi pour forcer qui que ce soit de retourner au travail, mais je pense que, étant donné que la rémunération des médecins n'a pas changé depuis plus de 50 ans, je pense que nous avons besoin de plus d'imputabilité. Parce que à la fin de l'exercice, la question est simple. Est-ce que tous ces gens-là qui conduisent ce matin pour aller travailler, pour payer des impôts, pour avoir des services de santé, est-ce que ces gens-là peuvent continuer à payer autant sans exiger un meilleur accès?
C'est une question que pose M. Dubé, puis je te dis qu'ils sont dans une guerre de chiffres avec les fédérations de médecins. Ben écoute, on va suivre ça. Je pense que les fédérations vont réagir là assez fortement. Revenons à la scène fédérale, Jérémy, Dimitri. Carney, le premier ministre Carney, les premiers ministres des provinces qui vont se réunir en Saskatchewan les 1er et 2 juin.
Mais je n'ai pas vu autant de rencontres entre un premier ministre fédéral et des premiers ministres provinciaux depuis des lunes. Puis j'inclus M. Harper et M. Trudeau là-dessus, qui littéralement avaient les deux une allergie à rencontrer le premier ministre provinciaux.
C'est jamais le fun, hein? C'est comme aller chez le dentiste pour un premier ministre du Canada.
Oui, mais je pense que cette fois-ci, M. Carney a décidé que non seulement il va présider deux conseils d'administration, celui, bien sûr, son cabinet des ministres qu'il va assermenter la semaine prochaine, il va aussi présider le conseil d'administration des premiers ministres provinciaux. Donc hier, pendant l'appel avec les premiers ministres, parce que hier aussi, il a eu un appel avec les premiers ministres provinciaux et ils se sont entendus d'avoir une réunion de deux jours en Saskatchewan le 1er et le 2 juin. Lors de cet appel, Il leur a fait un compte-rendu de sa première rencontre avec Donald Trump. Il a aussi commencé à apaiser les tensions avec l'Ouest, alors que Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, très frustrée avec la réalité de ses ressources naturelles et qu'elles sont bloquées, évoque un référendum. En passant, Doug Ford, qui n'est pas capable de garder un secret, c'est lui qui a annoncé. Tu sais ce que me disent les proches conseillers de M. Ford?
Quoi?
Quand on veut que quelque chose coule, on le dit au premier ministre.
Il n'est pas étanche.
Il n'est pas capable de garder un secret. Mais hier, il a dit une chose très importante. Il a dit, j'ai vraiment encouragé le premier ministre Legault à faire passer un pipeline à travers le Québec.
Ça va être difficile quand même, Dimitri.
Ça va être difficile, mais la conversation est méritée. Et je pense que le gouvernement du Québec a cette responsabilité au moins d'avoir cette conversation. Tout ce que je dis sur les pipelines, Patrick, c'est que il y en a déjà des pipelines au Québec. Mais il faut avoir cette conversation. En même temps, le premier ministre Carney, en passant, a demandé aux premiers ministres provinciaux que chacun lui transmette 5 priorités en matière de projet d'infrastructure d'envergure nationale. Le Manitoba l'a déjà fait, il y a un corridor commercial vers le port de Churchill. Donc, il semble, pour l'instant, au moins pour la première semaine, M. Carney semble vouloir passer de la parole aux actes.
OK. Parlons en terminant, Dimitri. Tu veux revenir, là, justement, on en a parlé à quelques reprises depuis le début de l'émission, sur ce mouvement de grève chez les adolescents québécois, des adolescents québécois qui voudraient débrayer, ne pas aller à l'école demain, vendredi, sur la question de l'interdiction du téléphone cellulaire.
Je ne blâme pas les jeunes. Je nous blâme, nous, collectivement, comme parents, d'avoir en grande partie permis cette uber-dépendance à leur téléphone cellulaire. Ce que je dirais par contre à ces jeunes, c'est que la queue ne peut pas faire bouger le chien. Ce que je veux dire par ça, c'est notre